FI.
Autour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour oser un parallèle inouï entre notre cerveau et le cosmos. Si le cerveau est l'objet le plus complexe de l'univers, ne pourrait-on extrapoler les travaux d'Einstein sur la relativité et la constante cosmologique au fonctionnement même de notre cerveau? C'est l'hypothèse géniale et révolutionnaire du médecin et physicien Denis Le Bihan, pionnier de la neuroimagerie cérébrale et fondateur de Neurospin, dans un ouvrage énigmatiquement intitulé « L'erreur d'Einstein aux confins du cerveau et du cosmos », dans lequel il multiplie les allers et retours entre ce que la cosmologie contemporaine nous apprend sur l'univers et ce que l'imagerie cérébrale nous dévoile sur notre cerveau. Tous deux ont une vitesse limite, de l'énergie et de la matière, noire, grise ou blanche, du macro au microcosme, autour de la question jusqu'où nous entraînera notre espace-temps cérébral et forcément relatif. Bienvenue pour réécouter cette expérience de pensée convergente qui vous avait particulièrement inspiré lors de sa première diffusion en février dernier et qui s'ouvrait sur cette réflexion de Thibaut Damour, un des plus grands physiciens contemporains à l'origine de la détection des ondes gravitationnelles.
C'est vrai que je trouve toujours admirable que dans les années 20, les grands artistes comme Proust, mais aussi Dali, se tenaient au courant des développements scientifiques et cherchaient des convergences. Et Proust a explicitement écrit qu'il pensait qu'il avait, ou on lui disait qu'il avait une manière similaire à celle d'Einstein de déformer le temps. Et il cite nommément Einstein dans certains manuscrits en disant « très Einstein », mais ne pas le dire parce que ça confuserait.
Bienvenue à la croisée des chemins entre Einstein et même Picasso dans notre espace-temps cérébral et relativiste. Ça, c'est vous qui nous le faites découvrir et c'est tout simplement révolutionnaire. Bonjour Denis Le Bihan.
Bonjour Caroline, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Avec un ouvrage pareil, je pense qu'on va vous réinviter même, cher Denis Le Bihan. En tout cas, merci à vous aussi d'être en direct avec nous autour de cet ouvrage, donc à nul autre pareil, que vous venez de publier chez Odile Jacob, L'erreur d'Einstein. Alors, on reviendra sur ce titre énigmatique, chaque chose en son temps, même si celui-ci est forcément relatif, parce que ce voyage aux confins du cerveau et du cosmos a de quoi nous bouleverser vraiment en profondeur. Donc allons-y doucement, en précisant d'abord que si vous osez, Denis Le Bihan, ce parallèle entre notre cerveau et l'univers, c'est parce que vous êtes un des rares chercheurs assez qualifiés et assez interdisciplinaires, voire indisciplinés, pour le faire. Vous êtes à la fois médecin et physicien, pionnier de la neuroimagerie au sein de l'Institut Neurospin que vous avez fondé et dirigé, et vous avez entre autres découvert de nouvelles techniques d'imagerie permettant de rendre plus transparent encore et plus visible le fonctionnement de notre cerveau en action. Le cerveau de cristal était d'ailleurs le titre de votre précédent ouvrage, mais votre formation de physicien vous place aussi à la croisée des plus récentes découvertes de la cosmologie, en grande familiarité avec les théories d'Einstein. C'est cette double casquette, si j'ose dire, qui vous a amené, Denis Le Bihan, à explorer ensemble, enfin en parallèle, ces deux univers, le cosmos et notre cerveau.
Oui, absolument. Effectivement, pour moi, ça ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui remonte à quand j'étais très très jeune, même pas au début de mon adolescence. Et l'imagerie dont vous parlez, en particulier les imageries des connexions intracérébrales, ce qu'on appelle le connectome.
Le connectome. C'est des connexions dans notre cerveau.
Voilà, c'est la matière blanche à laquelle, je dis parfois, à titre de plaisanterie, je lui ai donné des couleurs. Donc, vous avez certainement vu, parce qu'on en voit sur des objets de mode, dans les stations de métro, parfois, ces fils en couleurs et en trois dimensions qui sont au centre de notre cerveau. Donc, on en reverra peut-être tout à l'heure un peu plus en détail à quoi ça correspond. Mais il faut voir qu'en fait, dans ces fibres, il y a des influx nerveux qui circulent. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Donc, on a à la surface de notre cerveau, ce qu'on appelle le cortex, des tas de régions qui sont responsables de ci, de ça, du langage, de la vision. Enfin, je schématise, bien sûr. Mais ces régions-là, toutes seules, elles ne peuvent rien faire. Il faut qu'elles communiquent entre elles. Donc, elles vont envoyer des influx nerveux dans ces fibres. Et la chose qui est très importante, qui est connue mais souvent ignorée, c'est qu'il y a une vitesse limite de la façon dont ces influx nerveux circulent dans le cerveau. Einstein, en 1905, il a tout changé en remarquant que dans l'univers, il existait une vitesse limite qu'on ne pouvait pas dépasser.
La vitesse de la lumière.
Et qui correspond à la vitesse de la lumière. En partant de là, en raisonnant à l'envers, on arrive à des tas de choses surprenantes. Alors, il y a E égale MC2, bien sûr, mais il y a aussi le fait que le temps n'est pas le même pour tout le monde, etc. Eh bien, dans le cerveau, je me suis dit, le cerveau, il n'est pas à la vitesse de la lumière. Ça se saurait, sinon, d'accord ?
Donc, notre cerveau... Il fonctionne bien plus lentement.
Beaucoup plus lent. Donc, évidemment, ça paraît incongru de dire, qu'est-ce que Einstein va faire là-dedans ? Mais si on prend les équations d'Einstein et qu'on remplace la vitesse de la lumière par celle de ces influx nerveux dans le cerveau...
Si on ralentit la vitesse d'Einstein...
On ralentit les équations d'Einstein à celle du cerveau. Mm-hmm. Je me suis amusé à faire ça, et là, j'ai découvert des choses absolument extraordinaires.
Vous avez tiré un fil, un sens, et il y a une vitesse limite de la connexion, des connexions dans notre cerveau parcourues d'influx nerveux, et c'est ça qui déjà peut nous mettre en lien avec l'univers, donc le cosmos en général et le connexion dans notre cerveau, c'est
ça. Voilà, je vais vous donner un exemple. Oui. Si vous regardez un soir où il fait beau, les étoiles dans le ciel, vous les voyez toutes en même temps allumées, mais en fait, ces étoiles, elles ont été allumées il y a des millions ou des milliards d'années. Chacune a un temps différent. Donc c'est une illusion, cette simultanéité. Chaque étoile, en fait, a sa propre histoire, et on ne la voit, ça se trouve, une étoile qu'on voit aujourd'hui, elle a déjà disparu, elle est devenue un trou noir quelque part. Eh bien, dans le cerveau, c'est peut-être ce qu'on n'a pas bien réalisé. Quand on fait des images avec l'IRM, on voit des tas de régions qui s'allument, quand on parle, quand on écoute, etc. Mais c'est les régions que l'on voit de l'extérieur. Si je me mets dans la peau d'un influx nerveux, eh bien, je ne peux pas voir toutes ces régions qui s'allument en même temps. On les voit également, si je suis à un endroit précis du cerveau, ce que je vais voir, c'est ce qui vient d'arriver à cet endroit-là, d'un autre endroit ou de plusieurs endroits, mais à des temps différents. Donc le temps,
c'est exactement comme
dans l'univers. C'est exactement la même chose.
Vous qui observez le cerveau, vous vous êtes rendu compte, comme vous êtes physicien, qu'en observant l'univers, c'est la même chose. J'ai envie de vous renvoyer, cette comparaison ou la balle avec un nouvel éclairage d'un astrophysicien. C'est Éric Lagadec de l'Observatoire de Côte d'Azur, connu de nos auditeurs et des internautes de l'astronomie Afrique. Je propose de l'écouter.
Tout ce que je peux dire, c'est que quand on regarde des images, des simulations de la formation de l'univers juste après le Big Bang, on voit des sortes de réseaux. Et chaque fois que je monte ces images, les gens ont l'impression que ce sont des réseaux de neurones. Il y a vraiment un mimétisme entre ce qui se passe à très grande échelle et à plus petite échelle dans notre cerveau. Et c'est assez spectaculaire. Et je vous garantis que si je vous montre une photo des deux, je ne suis pas sûr que vous saurez reconnaître laquelle est la simulation de la formation de l'univers et laquelle est un réseau de neurones.
Il y a vraiment un lien visible. Et là, pour le coup, un astrophysicien le dit lui-même. Entre l'univers et notre connectome. C'est vraiment le nom qu'on donne à notre cerveau.
C'est ce qu'on donne aujourd'hui comme nom pour l'ensemble des connexions cérébrales. Donc, si on prend la terminologie, il a absolument raison, ce collègue. On parle de réseau. Donc, dans le cerveau, c'est une sorte de réseau à différentes échelles. Donc, il y a plein de régions qu'on va appeler des nœuds qui s'activent. Mm-hmm. Et ces nœuds communiquent, comme je l'ai dit, par des influx nerveux qui sont dans les fibres de matière blanche que j'ai colorées. Voilà. Donc, en fait, quand on regarde ces images, quand on regarde des images qui viennent de l'astrophysique ou des images qui viennent de la neuroimagerie, si on ne sait pas d'où elles viennent, on peut vraiment, il y a des analogies qui sont plus que des analogies. Il y a vraiment des points communs, à tel point qu'il y a même des logiciels qu'on utilise qui sont les mêmes pour les deux. Vous voyez, c'est à ce point-là.
Donc, ça n'est pas si étonnant, entre guillemets, que vous puissiez poser cette hypothèse-là. Non. On a vu que le point commun, c'était donc la vitesse. Il y a une vitesse limite dans le cerveau qui est évidemment bien plus lente, mais comme il y a une vitesse limite dans l'univers, et vous avez parlé évidemment du temps, notre cerveau, on va y venir, jusqu'où nous entraînera notre espace-temps cérébral, il y a la question du temps qui n'existe quoi, qui est aussi relatif dans l'univers que dans notre cerveau.
Exactement, il est relatif. Alors quand on regarde de l'extérieur, on n'a pas cette impression-là. Alors attention, je ne parle pas de la manière dont on perçoit le temps, ça c'est autre chose. Quand on perçoit le temps pendant le Covid qui ne passe pas ou qui passe trop vite, c'est autre chose. Je ne parle pas de ça. Enfin, je parle vraiment du temps physique dans le fonctionnement cérébral. Donc, la matière grise, qu'on appelle la matière grise, ce sont donc les neurones qui sont regroupés par régions tout à la surface du cerveau et aussi au centre. Donc, ils sont responsables de fonctions.
Ce sont eux qui forment les nœuds un peu, c'est ça.
Donc, en termes de réseau, on va appeler ça des nœuds. Voilà, donc ça fait bizarre, mais ce sont des nœuds. C'est eux qui génèrent ces impulsions de flux nerveux et c'est eux qui les reçoivent. Alors, il y en a pour la vision, pour la motricité, etc. C'est donc l'espace, il gère l'espace. Mais ensuite, il y a donc la façon dont les influx nerveux vont circuler entre ces nœuds avec des délais, des retards, un peu comme nos trains parfois. Hein, voilà. Mm-hmm. Et donc là, on a un aspect plutôt temporel. Donc il faut prendre les deux en considération.
Je vais faut vous prendre donner... l'espace-temps. C'est-à-dire que voilà. C'est pas pour rien que vous parlez d'un espace-temps cérébral.
C'est ça.
Comme Einstein a découvert l'espace-temps de l'univers.
Donc en fait, les équations, on peut les décliner. Bon, c'est un peu compliqué. Il y a des choses. C'est pas non plus à 100%, mais on peut les recopier. C'est-à-dire donc qu'en fait, Einstein a montré que l'espace et le temps, le temps est une sorte de dimension spatiale. Tout se mélange. Eh bien, dans le cerveau, mon idée, c'est que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire donc que dans la manière dont fonctionne le cerveau, le temps doit être pris dans l'étude des connexions entre ces régions-là. Alors, ça l'est, bien sûr, il y a des tas d'articles scientifiques qui en parlent, mais peut-être pas en ayant dans l'esprit que ce temps-là peut être mis sous la forme d'une dimension spatiale. Donc, les quatre dimensions sont aussi identiques les unes que les autres.
Les quatre dimensions, c'est-à-dire bon, espace,
X, Y, Z, l'espace classique et le temps.
L'espace et le temps. Et voilà. C'est là-dedans que nous vivons. Il y a un espace-temps cérébral à l'intérieur de notre cerveau, tout le cerveau de nos auditeurs et de nos internautes, qui lui aussi donc est régi par un temps relatif. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition empruntée par le physicien et philosophe Étienne Klein sur le temps ?
Je me demande si la meilleure définition qu'on peut donner au temps n'est pas celle qu'a proposée l'astrophysicien John Archibald Wheeler, qui disait « Le temps est le meilleur moyen qu'a trouvé la nature pour que tout ne se passe pas d'un seul coup. »
C'est ça aussi qui se passe dans notre cerveau.
Je connais bien cette phrase. Je connais très bien les citations de Wheeler, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y en a qui sont très intéressantes. Et il me semble que c'est peut-être Einstein qui a dit ça. J'en suis pas certain, mais peu importe.
Mais vous êtes d'accord avec donc cette définition du temps de Wheeler d'Einstein ?
Là, la grosse différence, par contre, entre cosmos et cerveau, c'est qu'on suppose a priori que le cosmos, l'univers, il est normal, il est sain. Malheureusement, l'univers, c'est bien pour l'univers, mais c'est moins bien pour nous, parce que nous, notre cerveau, il peut être éventuellement malade.
Ah, dysfonctionnel.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder, et peut-être que les équations, les modèles d'Einstein, nous éclairent sur ces pathologies, ce qui est nouveau.
Nous éclairent sur ce qui ne marcherait pas bien dans l'espace-temps de notre cerveau.
Voilà, donc je vais prendre l'exemple du schizophrène.
Oui.
La plupart des schizophrènes entendent des voix. Mmh. Voilà. Et quand on regarde avec l'IRM fonctionnel, on s'aperçoit que les régions auditives sont bien activées. Ils entendent bien des voix. Alors, c'est peut-être nous qui ne les entendons pas. Pas du tout. On se parle en permanence. On se dit des tas de choses.
Dans notre tête, bien sûr.
Bien sûr. Mais en fait, ce qu'on sait aujourd'hui avec l'IRM, c'est que nos décisions sont prises avant que nous en ayons conscience. Donc, le libre arbitre, c'est une question qui se pose. Donc, le cerveau prend bien des décisions, mais il nous le fait savoir qu'après. Donc, si vous imaginez quelque chose, normalement, tout se connecte parce que le temps, il évolue dans le bon sens. Mais ce qu'on montre avec ces fameuses images de diffusion que j'ai inventées, la métaphore de voir ces connexions, chez les schizophrènes, il y a une anomalie. Donc la vitesse n'est plus la même dans le cerveau des schizophrènes. Donc ces ralentissements peuvent aussi être vus comme des vitesses qui sont supérieure à la vitesse normale, à la vitesse de ces fibres quand on prend les fibres normales. Donc, je prends l'exemple d'un schizophrène. Ce qui pourrait se passer, c'est que, de façon inconsciente, il se dit quelque chose, mais il ne le sait pas. Ça arrive dans ses régions auditives. Là, il entend bien une voix, mais il ne sait pas que c'est lui.
Ah, c'est lui-même qui l'entend, mais il l'entend comme une voix extérieure.
Donc, son cerveau
reconstitue. Il y a une question de temps, en fait.
C'est
là,
un problème de temps. Voilà, donc la schizophrénie...
De simultanéité ou de...
C'est ça. Donc, l'aspect... Alors, je ne dis pas la maladie, je dis ce symptôme-là serait une anomalie de l'espace-temps chez le schizophrène. Donc, vous voyez, c'est
extraordinaire. Un schizophrène, il y aurait une anomalie dans l'espace-temps de son cerveau.
Parce que ses connexions sont anormales. Voilà, c'est ce que l'imagerie, la neuroimagerie révèle.
Jusqu'où allez-vous nous entraîner ? Et jusqu'où nous entraînez-vous dans cet ouvrage dont je rappelle, chers amis auditeurs et auditrices, que nous avons un exemplaire à vous offrir qui s'intitule, on va y venir, L'erreur d'Einstein. Mais il faut prendre son temps pour expliquer pourquoi. Cette erreur n'en était peut-être pas une d'ailleurs. Mais vous nous entraînez extrêmement loin. Et notamment, je trouve qu'il y a aussi une autre image qui nous permet de bien comprendre. Thibaut Damour citait Proust ou Dali. Vous citez Picasso représenter enfin, le cubisme. On a quand même tous en tête ces images un peu décalées de Picasso, de visage qui en sont vraiment sans en être vraiment.
Oui.
Et finalement, ça rejoint votre proposition, votre vision du cerveau comme un espace-temps, comme l'univers.
Tout à fait. Je vais vous donner un exemple. pour Einstein et Picasso. Il se trouve que, on va parler des Demoiselles d'Avignon, tableau de Picasso qui est de 1907. Le tableau d'Einstein, c'est 1905. Et en fait, Picasso était plus ou moins au courant de ces explications à travers Poincaré.
Le mathématicien
qui travaille aussi beaucoup sur le temps. Et puis, Bateau Lavoir, il y avait des gens qui connaissaient un peu Poincaré, etc. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée, mais j'en parle dans mon livre. Mais ce qui est extraordinaire, quand vous voyez une image de face ou une image de profil, vous pouvez, dans votre tête, reconstituer, c'est la même personne. Et pour arriver à faire ça, le temps intervient. Parce que dans votre tête, vous faites, sans le savoir, une rotation mentale entre la face et le profil. Donc, vous faites coller les deux personnages en disant c'est le même. Mais ça prend du temps. Cette rotation, la rotation, c'est quelque chose dans l'espace et ça prend du temps. On est vraiment dans l'espace-temps. Donc, Picasso, comme tous les peintres, met sur une surface à deux dimensions. On en reparlera tout à l'heure.
Ouais.
La troisième dimension, les peintures sont à deux dimensions, mais on voit une troisième dimension. Il dit, moi, je voudrais voir aussi la quatrième dimension. Je voudrais mettre le temps. Et il a fait à peu près 800 sketchs pour essayer de voir comment il pouvait faire ça. Et le premier résultat, ça a été la quatrième demoiselle, celle qui était à droite sur le tableau des Demoiselles d'Avignon, où la demoiselle est représentée avec sa figure pour la moitié de face, la moitié de profil. Donc il a mis ce qu'on appelle une similarité spatiale, il a mis sur la même image deux aspects temporels. C'est extraordinaire quand même. Et le cubisme est parti de là. Alors ce qui est très intéressant, j'en parle aussi dans mon livre, c'est beaucoup, beaucoup d'années plus tard, il y a un psychiatre qui connaissait bien Picasso, qui était élève de Freud, qui se demandait si Picasso n'avait pas des traits, alors c'était mineur, schizophrène. Voyez, donc
il aurait été capable de percevoir ou il aurait des troubles dans son espace-temps cérébral.
Je suis pas certain que ce soit vrai, bien sûr, mais donc, et ce serait certainement très mineur, il n'était pas malade, mais peut-être qu'il avait effectivement cette intuition d'espace-temps à cause de ce trait, peut-être, je n'en sais rien, mais c'est très intéressant.
Que se passait-il dans le cerveau de Picasso, dans celui d'Einstein, dans le vôtre, dans le nôtre, autour de la question jusqu'où nous entraînerez-vous, Denis Le Bihan, dans notre espace-temps cérébral et relativiste, avec cet ouvrage, L'erreur d'Einstein, qui n'en est peut-être pas une, on y viendra. Mais d'abord, je propose de nous rafraîchir un peu les neurones, en pénétrant, pour une fois, jusque dans le cerveau d'Einstein. Excusez du peu, c'est Einstein Brain, morceau signé du musicien belge Admiral Freebie sur RFI. She gave me a 6-month sentence for not being charming towards her friends. With two hands you eat, one hand to greet. Everything she said sounded like a repeat. Since 1983, we did not once agree. So let's get busy throwing arguments like good taste is equal to censorship. But you can't milk a cow with your hands in your pants. Complexity of the human psyche. She's flushing my gray cells down the drain. Tomorrow I'll have my Einstein brain. Einstein brain. I said I hope to see you the 23rd of June. She said there seems to be an illusion that escapes me. Felt like James Cagney running out of Coca-Cola. But you can't milk a cow with your hands in your pants. Complexity of the human psyche. She's flushing my gray cells down the drain. Tomorrow I'll have my Einstein brain. Einstein brain. My Einstein brain. Take it away, Molly. Einstein Brain sur RFI de circonstance, n'est-ce pas, Denis Le Bihan ? Autour de votre ouvrage révolutionnaire, L'erreur d'Einstein, aux confins du cerveau et du cosmos, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs à l'esprit libre et ouvert. Autour de la question jusqu'où nous entraînera notre espace-temps cérébral, nous découvrons avec vous, Denis Le Bihan, que celui-ci est relatif, que notre cerveau, notre connectome, est au fond un peu à l'image de l'univers. Alors est-ce que comme l'univers, et comme l'a démontré Einstein, notre espace-temps, la géométrie courbe de notre espace-temps cérébral, notre cerveau, elle serait courbe aussi ? Elle rejoindrait celle de l'univers ?
Voilà, jusqu'à présent, on a parlé d'un espace-temps, sans plus de détails, mais que je qualifierais de plat. Alors plat, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est ce qu'Einstein a découvert en 1905, donc il a écrit cette théorie de la relativité, qu'on appelle restreinte, parce que justement, 10 ans plus tard, il a sorti un variant, un sacré variant, qui est la théorie de la relativité générale, parce qu'il s'était aperçu que la gravitation ne marchait pas avec son équation de 1905. Donc ça lui a pris beaucoup de temps, c'est beaucoup plus compliqué. Les relativités restreintes, c'est relativement facile. Un étudiant en physique comprend très facilement. Mais c'est pour la relativité générale que ça se complique un peu, même beaucoup.
Donc là, on aborde déjà une petite erreur d'Einstein.
Là, non, là, pour l'instant, pas encore. Non, au contraire, c'est le génie d'Einstein. Ah. Là, il ne s'est pas trompé du tout. Au contraire, ben, je vais vous dire peut-être un exemple rapide. Sa théorie, donc, c'est que la gravitation courbe l'espace-temps, change le temps. En gros, notre temps passe moins vite sur la surface terrestre qu'en haut d'une montagne. Le temps passe plus vite en haut d'une montagne. Alors, c'est ridiculement petit. Il ne faut pas dire aux gens qui habitent en haut des montagnes qu'ils vont mourir plus tôt, ils vont vieillir plus vite.
Mais c'est peut le calculer. Il y a une petite différence dans une horloge atomique.
Mais ce qui est extraordinaire, les satellites, eux, du GPS, qui sont beaucoup plus hauts, eh bien, leur temps passe plus vite que nous. Donc, si on ne corrige pas des effets de la relativité d'Einstein, les horloges des satellites du GPS, on ferait une erreur d'environ 14 km à la fin de la journée.
Ça peut être grave. Oui.
Donc, vous voyez, même c'est extraordinaire. Einstein a pondu une théorie en 1915. Il a fallu 50 ans pour la vérifier. Et encore 30 ans pour qu'on l'utilise quotidiennement sans le savoir. Hein. Mais c'est fou, quoi. C'est la première fois, peut-être, dans l'histoire des sciences qu'on a cette durée. Donc, la gravitation courbe l'espace-temps. Les masses, les étoiles, les planètes, etc. Nous aussi, mais bon, c'est modeste. Donc, dans le cerveau, c'est la même chose. Ces nœuds dont j'ai parlé tout à l'heure,
oui, ces nœuds de matière grise,
voilà, ils vont courber l'espace-temps, c'est-à-dire dans le cerveau, ce qui veut dire que les influx
comme une
nerveux,
toile, hein, vraiment.
Voilà, les influx nerveux vont circuler au sein de la toile cérébrale, au sein de ces fibres. Les fibres vont pas bouger, hein, d'accord. Je ne coupe pas les fibres, attention. Mais le chemin que va suivre ces influx nerveux va être courbé. Je donne un exemple concret. Oui. Vous allez de Paris à New York. C'est pas une ligne droite. D'abord parce que la Terre est ronde. Mais c'est aussi, si vous regardez bien par le hublot, vous verrez que vous passez au-dessus du Groenland. Mm-hmm. Donc c'est bizarre. Hein, voilà, mais c'est lié à la courbure de la Terre. Donc le trajet des avions, ce qu'on appelle des géodésiques, pour minimiser la durée et la dépense en kérosène,
et courbe.
Elle est courbe. Eh bien, dans notre cerveau, ce serait la même chose. Pour gagner du temps, voilà. Pour entre une région A et une région B, le plus court chemin, ce n'est pas forcément le plus court dans l'espace, c'est le plus court dans l'espace-temps. Et tout le cerveau marcherait comme ça. Alors, ça va très, très loin, ça.
Ah ouais, c'est
extraordinaire. Parce que si vous regardez, quand on est conscient, notre cerveau, il y a plein d'agitations, il y a plein de connexions qui se font. Si vous prenez quelqu'un qui est dans un état végétatif,
Un coma,
mais alors pas le cerveau mort, hein, d'accord, un état donc de veille minimale, d'un état végétatif, eh bien, on s'aperçoit que ces gens-là, donc il n'y a pas de réaction, quand vous communiquez avec eux, rien ne se passe. Mais en fait, les connexions sont très, très faibles. Donc l'espace-temps est très peu courbé.
Il y a tous les neurones, il y a tout, mais l'espace-temps est peu courbé et il y a peu de connexions, il y a peu d'interactions.
Voilà. Donc c'est un peu comme si vous étiez dans un village où dans chaque maison, les gens ont leur Wi-Fi qui marche, donc ils peuvent communiquer d'un étage à l'autre, d'une pièce à l'autre, mais le réseau Internet entre les maisons est coupé. Voilà, c'est un peu ça.
Ça ne communique plus.
Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez appeler votre opérateur téléphonique pour qu'il vienne remettre ses connexions. Mm-hmm. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose chez l'homme ? Est-ce qu'on ne pourrait pas réveiller ces gens dans l'état végétatif en recourbant leur espace-temps pour refaire que leur connexion mette toutes ces régions ensemble.
Mais là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, si votre hypothèse qui a l'air de se vérifier... Vous l'avez fait, Denis Le Bihan.
Alors, pas chez l'homme, parce que
bien sûr.
Mais chez l'animal, donc des rats anesthésiés, donc c'est un peu l'équivalent de l'état végétatif, c'est pas tout à fait la même chose quand même, mais enfin, bon, plus ou moins, eh bien, en stimulant une région bien précise d'une région cérébrale, ce qu'on appelle dans le thalamus, hein, qui est un noyau de matière grise au centre du cerveau, on réveille instantanément le rat, c'est dans le lit, je cite là, le film, on peut voir ça, alors que le rat est toujours anesthésié. Oui, donc on peut avoir espoir qu'un jour, on en est encore très loin malheureusement.
En courbant notre espace-temps cérébral, donc, en le recourbant,
ça c'est ma théorie, mais on peut dire en reconnectant les différentes régions cérébrales entre elles. Donc le potentiel est énorme et ça pourrait se faire, non pas en mettant des électrodes dans le cerveau chez l'homme, mais en utilisant ce qu'on appelle des faisceaux d'ultrasons focalisés qui vont venir en quelque sorte chatouiller des régions cérébrales qui sont clés dans ces alternances veille-sommeil ou donc état éveillé et végétatif. Donc c'est pas la science complètement fiction, c'est de la science. Ça va peut-être prendre encore pas mal d'années. Il y a des problèmes éthiques bien sûr qui se posent et puis faut vérifier tout ça. Mais c'est ce modèle que je propose de relativité et l'espace-temps, c'est un peu un vecteur, un support physique pour expliquer tout cela.
Jusqu'où allez-vous nous entraîner, Denis Eubian, et entraîner notre espace-temps cérébral? Allez, je propose un nouvel éclairage, justement, pour nous faire réfléchir un peu sur tous ces processus à l'œuvre, dans notre cerveau, courbé, connecté, mais des processus qui sont, on l'a dit, à l'œuvre dans l'univers, dans l'infiniment grand, comme dans l'infiniment petit. Éclairage du physicien des particules Michel Spiro, découvreur, entre autres, des bosons intermédiaires. On l'écoute.
Quand on considère les différents processus, c'est vrai qu'on a l'infiniment grand qui est un processus qui nous défie notre imagination. On a l'infiniment petit qui est un autre processus qui nous emmène vers des profondeurs qui nous dépassent. Mais on a aussi l'infiniment complexe, l'infiniment évolué, qui lui aussi est un infini au même titre que les deux autres infinis et qui nous interpelle tout autant que les deux autres. On a trois infinis finalement, l'infiniment grand, l'infiniment petit et l'infiniment évolué.
Est-ce que vous partagez cette approche?
Alors déjà, Michel Spiro, c'était un de mes professeurs de physique quand j'étais étudiant.
Donc respect.
Voilà.
Mais bon. C'est lui qui est à l'initiative, je dis en passant, de l'année internationale des Nations Unies et de l'UNESCO sur les sciences fondamentales pour le développement durable.
Donc, tout à fait. Non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et on n'aura peut-être pas beaucoup de temps pour en parler, mais je partage totalement cette vision des choses. Et ce dont on n'a pas encore parlé, c'est la partie information. Donc il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand, et puis il y a l'information là-dedans. Donc c'est quelque chose de très important.
C'est ça, parce qu'au fond, ce que vous démontrez aussi, on va y revenir bien sûr, mais c'est que tout communique dans notre cerveau, comme dans l'univers, et que tout est information.
Voilà. Alors, pour arriver à voir ça, c'est pas facile. Déjà, donc, je rebondis sur ce qu'a dit Michel Spiro, parce qu'il est très important. Il parle de l'infiniment petit et l'infiniment grand. Vous savez peut-être que l'infiniment petit, c'est donc la mécanique quantique, c'est ce qui explique donc les atomes, les quarks, les électrons, comment tout ça fonctionne. Et ça marche très bien avec la théorie de la relativité restreinte, E égale mc2, tout ça, on a un modèle, il y a eu plein de prix Nobel, ça marche très bien. De l'autre côté de l'échelle, vous avez l'univers, le cosmos, donc qui est central à mon livre, qui est fait appel à la théorie de la relativité, principalement. Voilà. Le problème, c'est quand vous devez mettre les deux ensemble, ça ne marche plus. Là, on n'y arrive plus. Alors, on va parler
grand
des trous
problème,
noirs.
Grand énigme pour les physiciens. Grand problème. Matière noire, trous noirs, énergie.
Voilà,
toutes ces questions-là.
Au point que les physiciens ont du mal à s'entendre. Parfois, il y a un, je crois que c'est Green qui a dit ça, quand on parle de mécanique quantique dans un congrès de relativité, c'est comme si on allumait un feu de camp dans une usine de poudre. Vous voyez, c'est l'ambiance qui doit régner.
D'accord. Voilà. Et donc vous allez peut-être, non pas réconcilier les deux, mais en tout cas... C'est quand même l'objectif,
Einstein, il a passé toute la fin de sa vie à essayer de le faire, il n'y est pas arrivé. Alors, on parle dans le cerveau maintenant, moi je travaille surtout sur le cerveau. Donc, je dis parfois, parce que j'ai parfois du mal à me faire comprendre, aujourd'hui on a beaucoup de travaux qui sont sur les neurones, comment ils fonctionnent, les molécules, les neurotransmetteurs, l'échelle de quelques dizaines, centaines de neurones.
C'est pas l'infiniment petit, mais c'est le petit.
C'est l'infiniment petit pour le cerveau, je dirais. Hein, les quarks pour le cerveau, c'est peut-être une autre chose, mais c'est le petit du cerveau. Voilà. Moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est comment le cerveau fonctionne globalement. Je ne regarde pas les détails. Mm-hmm. Je vous donne un exemple. Si vous voulez savoir à quelle heure vous avez la marée haute et la marée basse, vous n'allez pas, personne ne ferait ça, de voir toutes les molécules d'eau qui sont dans la mer, faire les calculs. D'abord, on n'aurait pas les ordinateurs. Mais c'est pire, c'est qu'on n'a même pas les modèles. On ne sait pas aujourd'hui pourquoi les glaçons flottent dans le whisky. On a des idées, bien sûr, mais on n'a pas les détails encore. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, si vous voulez savoir à quelle heure vous avez marée haute et basse, vous prenez les équations de Newton et ou d'Einstein en regardant la Lune et le Soleil. Voilà.
Donc les deux sont compatibles. Il faut avoir un point de vue d'en haut ou un point de vue global.
Voilà, je ne sais pas c'est si ça. C'est en haut ou en bas.
C'est
mais...
global ou c'est une approche peut-être holistique, en fait, globale, c'est ça.
Donc ce que je propose là, c'est une approche holistique, une approche globale, mais qui n'est pas du tout en contradiction avec ce qu'on... Je travaille aussi sur le neurone, les neurones qui gonflent, etc. Je travaille sur les deux. Mais ce n'est pas en opposition. C'est important. D'ailleurs, ce n'est pas une théorie qui écrase l'autre. Pas du tout. C'est deux façons de voir les choses. Et je parle beaucoup dans mon livre de la dualité. Je donne beaucoup d'exemples. Il y a un chapitre très créatif de figures ambiguës. Vous savez, où on voit deux vases... un vase ou deux visages, ou des choses comme ça. C'est assez connu. Donc, en fait, il y a deux réalités. Laquelle voit-on ? Eh bien, ce que je montre dans mon livre, c'est qu'on sait aujourd'hui que quand on vous montre cette image, spontanément, vous allez dire « je vois deux visages » ou « je vois un vase ». Spontanément. Mais comment c'est possible que vous voyez l'un ou l'autre ? Ce qu'on sait aujourd'hui avec l'IRM, c'est qu'en fait, quelques secondes avant, c'est une région du cerveau qui est spécifique de la détection des visages, est activée pour une raison quelconque. Mm-hmm. Vous allez dire « je vois des visages
».
Alors que si cette région-là ne l'était pas, vous voyez un vase. Donc ce que l'approche de l'espace-temps permet de modéliser, c'est qu'avec l'attention, vous pouvez dire « non, je veux voir le vase ».
Donc on peut décider.
Oui, mais après... Vous pouvez faire un effort pour voir.
C'est pour ça qu'une fois qu'on nous a montré, quand c'est une double image, une fois qu'on nous l'a montré, on le revoit facilement.
Voilà, mais ça vous coûte un petit peu d'énergie, il faut faire un effort mental, c'est l'attention. Eh bien, en fait, vous recourbez votre espace-temps de façon à ce que ces fameuses géodésiques dont je parlais, ces trajets minimaux en termes d'espace-temps, passent par cette région-là. Voilà, donc c'est une manière de l'expliquer.
Et voilà comment on recourbe son espace-temps cérébral sans même s'en rendre compte, pour nous laisser un peu digérer toutes ces informations. Cher Denis Le Bihan, et avant d'en arriver à cette erreur d'Einstein, qui n'en est peut-être pas une, je propose d'écouter un autre grand astrophysicien qui nous a tous inspirés, qui a d'ailleurs parlé beaucoup des trous noirs, qu'il a décrit comme plutôt gris sur les bords. Vous voyez de qui je veux parler, de Stephen Hawking, formidable astrophysicien visionnaire et cerveau hors pair dans son espace-temps à lui. Allez, je propose de l'écouter tout de suite dans un petit mix extrait d'une vidéo qui lui rend hommage.
Mankind's greatest achievements have come about by talking, and its greatest failures by not talking. It doesn't have to be like this. Our greatest hopes could become reality in the future. With the technology at our disposal, the possibilities are unbounded. All we need to do is make sure we keep talking, keep talking, keep talking, keep talking, keep talking.
Stephen Hawking. Stephen Hawking, keep talking, continuons à nous parler. Petit message subliminal, signé Stephen Hawking, qui nous renvoie à notre cerveau, à notre espace-temps cérébral, mais qui nous renvoie aussi à ces fameux trous noirs, Denis Le Bihan.
Oui.
Comment les trous noirs peuvent nous aider ? Alors à la fois l'énigme absolue dans l'univers, pour le moment, qu'on approche, qu'on arrive à photographier, comment ça peut... être mis en parallèle avec le fonctionnement de notre cerveau.
Alors, ne me faites pas dire qu'on a tous des trous noirs dans le cerveau. Hein,
non,
c'est, d'accord.
Quoique parfois ça arrive, mais
peut-être,
bon.
Peut-être, mais bon. Donc, en fait, j'adore ce scientifique. Il a dit des tas de choses extraordinaires, mais c'est vrai qu'il est très connu pour ce qu'il a fait sur la gravité et les trous noirs. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir ? C'est quelque chose qui avait été prévu en 1915 par les équations d'Einstein. C'est-à-dire donc... si la gravité devient extrêmement forte, une étoile qui devient extrêmement, extrêmement compacte parce qu'elle est en train de mourir, eh bien, la gravité va être tellement forte, l'espace-temps va être tellement déformé que plus rien ne pourra s'échapper localement, même pas la lumière. C'est pour ça que c'est noir, c'est qu'on ne voit plus rien, puisque même la lumière qui rentre là-dedans ne peut plus en sortir. C'est tout noir. Voilà. Donc c'est ça, un trou noir. Et aujourd'hui, la physique donne un peu sa langue au chat quand on va au fond des trous noirs, ce qu'on appelle les singularités, c'est-à-dire que l'équation d'Einstein ne marche plus, la mécanique quantique ne marche plus aussi. Alors il y a des idées, hein. Je ne dis pas qu'on est complètement naïf là-dessus.
C'est une grande énigme. Hein.
Voilà. Et donc Einstein ne croyait pas aux trous noirs. Voilà. Il disait non, c'est pas possible, c'est des erreurs de calcul, c'est pas possible. En fait, on sait très bien que ces trous noirs existent. La preuve, c'est qu'en avril 2019, la première photo d'un trou noir a été obtenue. Ça a fait un prix Nobel juste un an après. Donc les trous noirs existent bien.
Mais
ce qu'Hawking a réalisé, et ça, c'est extraordinaire. Donc, aujourd'hui, on pense que l'information Donc, c'est ce qu'on appelle l'entropie aussi en physique. Elle ne fait qu'augmenter. Le désordre ne fait qu'augmenter. Comme un peu une chambre d'adolescent, le désordre ne fait qu'augmenter. D'accord ? C'est un principe sacro-saint de la physique. Le problème, c'est que si vous mettez dans un trou noir des disques durs, tout un tas d'informations, eh bien, l'entropie va diminuer parce que ça disparaît.
C'est ça.
Et Hawking a fait un séisme en 1983 parce qu'il a annoncé que c'était un gros problème et que ça, ces trous noirs, peut-être renversaient complètement la physique. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait exact parce que lui-même a montré dans les années 70 que les trous noirs pouvaient, à leur surface, la surface d'un trou noir s'appelle un horizon. C'est là où, si on va au-delà de l'horizon, plus rien ne peut sortir.
C'est ça, voilà, c'est l'horizon. Dans un trou noir.
Alors, l'horizon, on représente souvent comme une sorte de disque. En fait, c'est aussi un cercle. Hein. C'est une sphère. C'est une sphère. Donc, il a montré que les trous noirs, en fait, pouvaient émettre un petit peu quelque chose qu'on appelle les radiations de Hawking et qui font que les trous noirs peuvent s'évaporer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est dedans peut ressortir un petit peu et les petits trous noirs peuvent s'évaporer et disparaître. C'est fou comme idée. Donc tout ça, ça a fait son chemin. Et ce qui a été montré par Bekenstein et un peu avant lui, c'est que l'information qui était dans un trou noir, donc dans le volume d'un trou noir, un volume à quatre dimensions, elle se retrouvait entièrement sur la surface, à l'horizon du trou noir. Autrement dit, vous voyez, vous réduisez une dimension. Vous passez d'un monde où vous avez un volume à quelque chose qui est surfacique. Et ça, c'est énorme, énorme. Parce qu'en fait, ça a été repris sur le plan de la physique par Maldacena en 1997. C'est un des articles les plus cités. Alors c'est très compliqué. Hein, il explique que l'on peut naviguer entre une dimension en plus ou en moins. En gros, si je pouvais simplifier, c'est un peu caricatural, c'est comme si dans votre maison, vous avez des tas de choses, et que je pouvais savoir tout ce qu'il y avait dans votre maison en regardant simplement les murs. Donc les murs, c'est deux dimensions. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée.
On voit ce qui est à la surface.
Voilà, on voit que ce qui est à la surface. Et toute l'information est là. Voilà, donc si vous connaissez les hologrammes dont on parle beaucoup, alors en ce moment, il y a des hommes politiques qui les utilisent.
Et vous en avez simplement,
sur votre carte de crédit, parfois, il y a des hologrammes.
Oui.
C'est quoi des hologrammes? Ce sont des figures qui sont à deux dimensions. Votre carte, elle est plate. Mais quand vous regardez, vous voyez un objet à trois dimensions, un oiseau, je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez un objet à trois dimensions. Quand vous tournez la tête, vous voyez l'objet à trois dimensions. Vous voyez que, donc, on réduit sur une surface à deux dimensions quelque chose qui est à trois dimensions, qui est un volume. Eh bien, c'est un peu ça, l'idée. Et donc, la physique peut s'expliquer, quand on essaie de mettre l'infiniment petit et l'infiniment grand ensemble, c'est peut-être un moyen de s'en sortir, c'est de rajouter ces dimensions.
Cette dimension-là, et donc d'aller voir à la surface. Vous disiez aussi qu'on ne peut observer
que la surface.
Ce qui se passe dans l'univers, et au fond, comme dans notre cerveau.
C'est pareil.
Que à la surface.
On ne voit que la
très
surface.
Étonnant,
je ne vous vois qu'à la surface. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans la mienne. Ma conscience, vous ne la voyez pas.
Mais la surface suffit pour qu'on...
C'est pas qu'elle suffit, c'est que c'est comme ça. Oui, c'est que... oui, effectivement, c'est que moi, je ne vous vois que par vos yeux, par votre figure, par éventuellement vos...
Et on ne connaît jamais l'intérieur, finalement.
Non.
On ne peut connaître que l'extérieur, que la surface.
Que
ça aussi, c'est fou.
C'est fou. Mais en physique, ça devient un principe maintenant qui n'est plus dans les trous noirs uniquement, mais toute la physique, toute l'information serait sur une surface et tout le reste, c'est en fait une illusion. C'est reconstitué.
Donc on est dans un monde d'illusions. On reconstitue la réalité dans notre espace-temps cérébral.
Voilà.
Et tout ce qu'on peut approcher, c'est à la surface.
Voilà.
Alors, si j'ai bien compris, maintenant, il va falloir que vous m'expliquiez, donnez le bien le titre de votre
ouvrage.
Voilà,
l'erreur d'Einstein.
C'est l'erreur d'Einstein.
Voilà.
Pourquoi l'erreur d'Einstein? Qui n'en est peut-être pas une ou qui n'en est pas une aujourd'hui?
Qui n'en est sûrement pas une.
Qui n'en est sûrement pas une.
Non, justement, le titre est un peu provocateur. Je ne me serais sûrement pas permis de... J'ai découvert des erreurs chez Einstein, mais je ne me serais sûrement pas permis de faire un titre comme ça.
Alors, qu'est-ce que c'est
que c'est une erreur qu'Einstein lui-même a décidé que c'était une erreur. Donc, en 1915, il a donc sorti ses équations de la relativité. En 1917, comme à l'époque, on pensait que l'univers était statique, ne bougeait pas, était immuable dans le temps, ses équations ne collaient pas bien avec ça. Ça pouvait donc entraîner un Big Bang ou au contraire une expansion. Donc, pour stabiliser l'univers, il a rajouté à son équation une constante qu'on appelle la constante cosmologique, qui se symbolise avec la lettre grecque lambda, c'est celle qui est sur la couverture de mon livre.
Ouvrage.
Voilà. Et pour, donc, une sorte de répulsif. Hein. C'est-à-dire que la gravitation font que tout collapse, mais là, on y met un répulsif qui va faire une gravitation à l'envers, si vous voyez.
Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il a rajouté.
C'est ce qu'il a rajouté. Dans les années 20, coup de surprise, grande surprise, Hubble et le Belge Lemaître, un prêtre physicien, ont découvert et quantifié l'expansion de l'univers. Alors, l'univers n'est pas du tout immuable, il est en expansion. C'est-à-dire qu'il est, c'est un peu comme si les galaxies étaient sur un ballon de baudruche en train d'être gonflées. Donc c'est les galaxies s'éloignent les unes des autres, et plus elles sont loin les unes des autres, plus elles vont vite assez loin. Et Einstein, quand il a découvert ça, était furieux, et il dit, donc il n'y avait pas besoin de la constante. C'est la plus grande erreur de ma vie. Donc lui-même a dit, en 1931-32, il l'a retiré d'un geste de rage, si j'ose dire.
En disant,
c'était pas la peine.
Donc, puisque l'univers est en expansion.
Voilà.
Mais le feuilleton n'est pas terminé.
C'est pour ça que ce livre, le fil rouge de mon livre, c'est cette erreur d'Einstein pour l'univers et pour le cerveau. Dans les années 60, on a commencé à en reparler, mais c'est surtout en 1998 que c'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a des expériences qui ont été faites pour pouvoir comprendre cette expansion de l'univers. Et là, ce qui a été trouvé, c'est que l'univers était non seulement en expansion, mais cette expansion s'accélérait.
Ah, l'expansion accélérée de l'univers qui leur a valu le prix Nobel.
Et ça a entraîné. Donc, c'était le prix Nobel. Avec Rice en particulier en 2011. Donc c'est très récent.
Et là, ça prouvait qu'Einstein avait eu raison de rajouter la constance, c'est
parce
ça.
Parce qu'en fait, la manière la plus simple, élégante d'expliquer cette accélération de l'expansion de l'univers, c'est de remettre la constante d'Einstein dans son équation. Mais c'est fou comme histoire. Alors attention, cette constante va régler notre destin, à savoir c'est elle qui va nous dire ce que le destin va devenir, est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'on va être écartelé, est-ce qu'on va geler, c'est elle. Et cette constante cosmologique, sa valeur, elle est vraiment très 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 petite, c'est un zéro suivi, .000000, il y a plein de zéros, je crois qu'il y en a 52, et ensuite un. Donc c'est très très petit, mais c'est pas zéro.
Ça peut tout changer, ça change tout.
Ça, c'est une surprise
pour
totale.
L'univers comme pour notre cerveau. Voilà. Pareil, je vais nous laisser digérer cette nouvelle information à l'écoute de votre choix musical, Denis Le Bihan, qui réunit alors à la fois toutes vos recherches sur le cerveau, sur Einstein et toutes vos passions. Vous avez choisi d'écouter un morceau que vous aimez jouer, parce que vous êtes pianiste aussi, à vos heures perdues. Il s'agit d'un prélude composé par Bach, revisité par Franz Liszt, dans la version de la pianiste Katia Dounashvili, qui vous met en transe. C'est vous qui me l'avez dit, Denis Le Bihan. Et pas seulement pour sa musique et son talent, mais aussi pour ses intuitions. On va vous le révéler juste après cet extrait musical. Pianoter, cher Denis Le Bihan. On n'a pas de piano dans le studio, table.
J'ai les larmes aux yeux, là, vous voyez.
Pourquoi, justement, avez-vous choisi cette version-là du prélude de Bach et...
Alors, c'est une œuvre que je joue, et pendant l'écriture de mon livre, je la jouais pratiquement tous les jours. Mmh. Il y a quelque chose dedans, je ne sais pas bien l'expliquer, il y a quelque chose qui colle avec mon livre, à savoir donc cette espèce d'amplification un peu cosmologique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est dans le petit livret qui accompagne le disque de Katia Bouchevili, c'est elle dit, quand je joue cette œuvre-là, j'ai l'impression que l'espace n'existe plus, qu'il se transforme en quelque chose d'autre qu'on pourrait appeler le temps.
Extraordinaire.
Vous voyez, je ne pense pas qu'elle connaisse les travaux d'Einstein.
C'est fou, quoi. Dans des intuitions que vous avez, vous aussi, vous vérifiez. Enfin, ce sont des hypothèses.
Oui, oui. Donc, je ressens cela. Alors, pourquoi c'est important d'en parler? C'est parce qu'en fait, on va peut-être finir là-dessus, c'est que cette constante cosmologique, on peut l'écrire autrement, quand on manipule les équations d'Einstein, c'est assez trivial, hein, sous la forme d'une énergie supplémentaire qui courbe l'espace-temps de l'univers. Mais nous aussi, donc je veux dire, nous on a notre espace-temps qui courbe, mais notre espace-temps, il est en permanence courbé par l'autre. Vous êtes en train de me courber mon espace-temps, je vous en veux
et
pas.
Et moi, hein. Je courbe le et vôtre, Denis Le Billon. Oh, je suis quand même très fier de courber l'espace-temps de Denis Le Billon. Alors là, franchement...
Donc en fait, ce que cette constante cosmologique pourrait révéler, ce sont nos interactions sociales. Il y a un univers, mais il y a 8 milliards de cerveaux sur Terre. Il faut rajouter tous les cerveaux de ceux qui sont morts, parce qu'on les a toujours dans notre tête. Ils ont laissé des œuvres d'art.
C'est ça, absolument. Et c'est ça notre espace-temps cérébral.
Collectif, à ce moment-là.
C'est collectif. C'est tout ce qu'on a croisé, rencontré.
Tout est... Voilà.
Et qui continue.
Qui continue. Donc, en fait, qui continue à courber notre espace-temps. Quand vous lisez un livre, ce livre, il a un effet sur vous. Donc, il a un effet sur votre espace-temps cérébral. Donc, cette constante cosmologique pourrait correspondre à cela. Et dans le coup, je me suis posé la question à l'envers. Mais alors, dans l'univers, est-ce qu'on est tout seul ou est-ce qu'il y a d'autres univers? Et là, il y a tout un chapitre dans mon livre là-dessus. Il y a plein de scénarios possibles sur des univers multiples. Ça va même jusqu'au calcul quantique. Hein.
Et qui rejoignent les multivers certains astrophysiciens qui disent qu'il y a effectivement... comme en sorte de parallèle, univers parallèles.
C'est ça, ce sont des univers parallèles.
Au fond, vous dites, ça existe. Dans notre dans notre cerveau, c'est comme
dans
ça.
Dans notre
déjà.
Cerveau, ce sont les autres. Ça, c'est clair pour moi. Ce sont les autres avec lesquels on interagit.
Donc on a besoin des
on
autres.
On a absolument besoin des
et
autres.
Et on vit avec
L'autiste,
et grâce aux autres.
Il a une constante cosmologique qui ne doit pas être très très forte, vous voyez, puisqu'il a du mal. Il est, comme je dis parfois, socialement aveugle. Il voit très très bien, mais sa vision ne permet pas d'apprécier, de lire la surface de l'autre. Vous voyez ?
De lire la surface de l'autre, puisqu'on est chacun à la surface et on communique comme ça. C'est énorme ce que vous nous racontez, voilà, ce que vous partagez dans cet ouvrage. On n'a pas le temps de parler de la conscience, parce qu'on n'aurait aussi pas parlé de l'énergie noire.
Oui, oui.
Enfin, vous ouvrez
l'énergie noire, si, peut-être quand même, parce que très rapidement...
Ah oui, alors là, très rapidement, en 30 secondes.
Je ne l'ai pas dit, c'est pour ça. La constante cosmologique, donc, qui n'est pas l'erreur d'Einstein, donc je vous ai dit que ça l'expliquait, mais cette expansion de l'univers, elle est liée à ce qu'on appelle l'énergie noire. Donc l'erreur d'Einstein, c'est l'énergie noire. 70% du contenu de l'univers... La matière noire, donc on ne sait pas non plus ce que c'est 25%, et nous autres, c'est-à-dire les étoiles, les galaxies, les planètes, et nous autres, pauvres petits humains et animaux sur Terre, c'est 5% de l'univers au maximum. Donc il y a du travail, vous voyez.
Donc il y a quand même pas mal d'énergie noire, et il suffit
pas...
On ne sait pas ce que c'est.
Aucune idée.
Voilà de quoi alimenter et faire travailler notre espace-temps cérébral, car on est loin d'en avoir fini avec notre connectome et avec cette erreur d'Einstein, pour reprendre le titre de l'ouvrage fantastique à tous les sens du terme du professeur Denis Le Billon, L'erreur d'Einstein, aux confins du cerveau et du cosmos, est paru aux éditions Andy Jacob.
Sur internet www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre curiosité. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Rendez-vous demain en direct avec Thibaut Baduel à la réalisation et Valentine Lemaire en coulisses. Autour de la question, comment composer un monde en commun? Regard croisé de deux économistes et humanistes, Gaël Giraud et Félouin Sarr. Merci pour votre fidélité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.